Chers frères et sœurs Festair, vous voyez que dans l'Évangile, il est souvent question de manger et de boire. À telle enseigne que c'est toujours au cours d'un repas, souvent en tout cas, maintes fois rapporté par les évangélistes, que Jésus a accompli les plus grands signes et qu'il a délivré les messages les plus importants et les plus profonds. À commencer sans doute par les noces de Cana, où il changea l'eau en vin. C'est là même que, d'après saint Jean, il commença son ministère public et pour la première fois manifesta sa gloire de telle sorte que ses disciples crurent en lui. Je pense aussi à son dernier repas, sa dernière scène, partagée avec ses disciples la veille de sa passion, alors qu'il instituait l'Eucharistie, le sacrement de son corps et de son sang. C'est tellement vrai que Jésus est apparu à ses contemporains, comme dit saint Matthieu au chapitre 11 de son évangile, comme un homme qui mange et qui boit. Au contraire de son précurseur, Jean-Baptiste, qui lui vivait dans l'austérité du désert, ne buvant et ne mangeant pas. À telle enseigne que ses détracteurs diront de Jésus qu'il était un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs, avec cet excès qui caractérise sans doute ceux qui jugent sur l'apparence et sont a priori malveillants. Cet évangile que nous venons d'entendre ne déroge pas à la règle. Voilà Jésus qui est soucieux, préoccupé, inquiet pour cette foule nombreuse qui l'a suivi jusque dans cet endroit désert, écoutant sa parole, mais avec un peu d'imprévoyance, et devant cette foule affamée, dont il est saisi de pitié, il multiplie les pains pour nourrir toute cette foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, comme disent les évangiles synoptiques. Et il en resta 12 corbeilles pleines, 12, le chiffre de la plénitude, le chiffre de l'abondance. C'est Dieu lui-même qui se manifeste à travers la multiplication des pains. C'est la puissance divine de Jésus qui prend soin de son peuple, qui le nourrit, comme nous l'avons chanté dans le psaume de méditation de cette messe. Le signe de Dieu, quand il se manifeste, c'est toujours le signe de l'abondance. Nous le voyons encore à Cana, lorsque Jésus va changer pas moins de 540 litres de vin, selon les indications toujours très précises de saint Jean, à la fin de la noce, parce que Marie se tourne vers Jésus et lui dit comme une mère qui sait être attentive aux besoins les plus concrets de ses enfants, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus change l'eau en vin, un vin meilleur que le premier, alors que tout le monde a déjà bien bu. 540 litres de vin. Je sais bien que c'était une noce qui durait 8 jours, mais tout de même une noce de village. Il n'y avait pas des milliers de personnes. Le pain et le vin qui caractérisent sans doute l'alimentation de nos pays méditerranéens. Le pain qui est absolument nécessaire pour vivre. Le vin qui n'est pas absolument nécessaire, mais qui est ce petit, parfois ce grand plus, qui réjouit le cœur de l'homme, comme dit le psalmiste, et qui permet aux hommes de faire la fête pour exprimer leur joie. Vous voyez comment cette récit de la multiplication des pains associé, comme il l'est dans l'intention de Jésus, aux noces de Cana, où il changea l'eau en vin, nous rejoignent dans nos fêtes de Bayonne, où l'on mange à satiété et où le vin coule à flot. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et qui permet en effet de faire la fête. Et il est bon sans doute de saluer, de remercier la municipalité de Bayonne et tous ses partenaires pour la remarquable organisation de ces fêtes d'année en année et les conditions de sécurité importantes qui sont mises en œuvre pour permettre à tous de faire paisiblement et sereinement la fête, même s'il y a toujours évidemment des tout petits débordements, mais bon, ça fait partie de la fête. Voyez comment ce récit de la multiplication des pains lié aux noces de Cana pourrait nous aider à saisir le sens profond de la fête comme expression de la joie. Quelle est la justification de la fête? Il y en a plusieurs, mais peut-être qu'il faut que nous trouvions aussi la justification ultime qui permet d'exprimer la vraie joie, celle qui ne se termine pas un lendemain de fête, excusez-moi l'expression, avec une gueule de bois. La première justification de la fête, c'est la rencontre. L'occasion d'aller à la rencontre de manière gratuite, sans protocole, sans barrière, avec les autres. Et on peut dire que les fêtes de Bayonne sont un succès de ce point de vue-là. Le costume que vous portez de festaille, qui est le même pour tous, sans exception de personne, quelle que soit la fonction que l'on occupe dans la société ou dans l'Église, facilite cette rencontre gratuite, à égalité, où l'on fraternise si volontiers, sur fond de bandas, de manifestations culturelles, artistiques, ludiques, même pour les enfants. Tout le monde y trouve son compte. Et c'est une vraie justification de la fête. Moi-même, j'aime, alors en soutane blanche filetée de rouge, pour rester dans le ton de la fête, me promener dans les rues de Bayonne, aux heures les plus affolées, comme on dit en latin, affolata, quand la foule est nombreuse, pour aller à la rencontre gratuitement des uns et des autres. Une deuxième raison qui justifie la fête et qui va dans ce sens-là, mais qui est un peu plus encore, favorisée sans doute par la rencontre, qui est le partage des valeurs que l'on a en commun et qui sont appelées à faire grandir l'unité, la communion, la solidarité, l'amitié, qui est la valeur suprême, à travers le partage des dons, l'échange des compétences et des talents culturels, artistiques, culinaires, les produits du terroir, le dialogue qui peut être l'occasion de ces fêtes avec les uns et avec les autres, où l'on devise aussi sur des réalités plus importantes de notre vie, de ce qui fait notre vie. Et puis, la justification de la fête, c'est que nous avons besoin parfois de faire un peu de pause, de nous reposer, de nous abstraire du stress et des soucis de la vie quotidienne, parfois même pour exorciser les angoisses face à nos épreuves et ce fardeau que nous avons parfois besoin de déposer et qui est si lourd à porter. Quand nous sommes affligés par la maladie et que nous sommes confrontés à tel ou tel moment de notre existence, à cette perspective ultime qu'est celle de la mort et qui peut être l'objet d'une telle angoisse. Alors c'est là qu'on risque de déraper, c'est là qu'on risque de déborder et de faire de la fête le moyen d'exorciser jusqu'à conjurer cette angoisse dans une joie qui peut finir par devenir terriblement triste. Le lendemain de la fête, nous sommes à nouveau confrontés à nos épreuves, à nos soucis du quotidien, à nos angoisses existentielles, dans la recherche d'un sens ultime à donner à notre vie. Une joie triste qui n'aurait d'autre perspective que la mort, comme Saint Jean, comme Saint Paul qui nous dit, pour décrire le découragement et la désespérance qui peut prendre les hommes, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Voilà pourquoi il nous faut trouver une justification ultime, plus profonde encore à la fête, que nous chrétiens nous connaissons, parce que sans lui, sans Dieu, comme nous l'avons dit dans la prière d'ouverture de cette messe, il n'est rien de fort, il n'est rien de saint. C'est à travers le bon usage des réalités qui passent et qui sont importantes pour notre vie et que nous partageons précisément au cours de ces fêtes de Bayonne. D'une manière très humaine, très familiale, très conviviale, nous puissions nous attacher déjà aux réalités qui demeurent. Cette ouverture à la transcendance qui seule peut donner une justification ultime à la fête et nous faire entrer dans une joie que personne ne pourra nous ravir, même si nous sommes éprouvés, même si nous sommes accablés, même si nous sommes parfois découragés par le fardeau de la vie. Et c'est cela le message de Jésus que nous partageons aujourd'hui au cours de cette messe. Lorsqu'il multipliait les pains, il ne voulait pas seulement nourrir les corps affamés, mais cette multiplication des pains chez saint Jean va introduire au discours du pain de vie, où il annonce ce pain qui descend du ciel, qui est sa chair donnée pour la vie du monde. Ce vin de Cana, qui rappelle le vin qui, au soir de la dernière scène, sera par Jésus changé en son propre sang, versé pour la multitude. Ce pain et ce vin qui nous renvoient à la mort et à la résurrection du Christ, la seule et ultime raison de nous réjouir et de faire la fête ici-bas, chers frères et sœurs, c'est la résurrection du Christ, où Jésus est vainqueur de la mort, vainqueur de la souffrance et vainqueur du péché qui conduit à la souffrance et à la mort, anticipé dans l'Eucharistie, à travers le pain et le vin, changé dans le corps et dans le sang du Christ, auquel nous pouvons communier pour être déjà victorieux, quelles que soient nos épreuves, de toute souffrance. La fête chrétienne par excellence est centrée sur la messe, et le repas qui suit et la convivialité familiale découlent de cette joie, de l'espérance que donne le Christ mort et ressuscité. Comprenez pourquoi cette messe des bandas, comme la messe des fêtes à la cathédrale, comme la messe des familles à la collégiale Saint-Esprit, trouvent toute leur place au cœur de nos fêtes, même si je sais bien que les fêtes de Bayonne ne sont pas des fêtes chrétiennes, je ne suis pas là pour récupérer. Je crois même d'ailleurs qu'elles ont été instituées au départ pour prolonger le 14 juillet. Depuis quelques années, le jumelage avec la ville de Pampelune, et je suis heureux de saluer le représentant de la municipalité et de la région de Pampelune, on a retrouvé aussi une autre raison de la fête, car à Pampelune, c'est la fête de Saint Firmin. Saint Firmin, martyr, dont on fait mémoire au cours de ces fêtes, et qui, dans l'histoire de Pampelune, est la raison de la fête. D'ailleurs, d'avoir adopté le costume qui est celui de Pampelune, blanc et rouge, indique un peu cette valeur chrétienne de la fête qui nous rassemble aujourd'hui, en particulier au cours de cette messe des bandas, ici à Saint-André. Le blanc et le rouge du martyr, précisément, qui rappelle le témoignage suprême du Christ, qui donne sa vie par amour pour nous donner la joie éternelle, imité par les martyrs qui préfèrent mourir plutôt que de renier leur foi et en témoigner aux yeux des hommes. Alors, chers frères et sœurs, vous qui êtes ici, non pas seulement par tradition, mais par conviction, qui n'auriez pas manqué pour tout l'or du monde cette messe des bandas, pas seulement pour le spectacle et l'harmonie bayonnaise, mais parce que c'est le cœur même de votre joie et de votre raison de faire la fête, laissez-vous interpeller par Jésus qui regarde les foules d'aujourd'hui qui participent à ces fêtes nuit et jour, qui déambulent dans les rues, un verre à la main, qui expriment leur joie et parfois avec quelques petits débordements et quelques petits excès et quelques petits manques de modération, on exorcise un peu l'angoisse. Laissez-vous interpeller par Jésus qui, voyant cette foule, dit à Philippe: mais comment est-ce que nous allons donner à manger à une foule aussi nombreuse? Et dit l'évangéliste, c'était pour le mettre à l'épreuve, parce que lui savait bien ce qu'il allait faire. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Pas seulement multiplier les pains pour nourrir les corps, mais il allait donner sa vie par sa passion et par sa croix et par sa résurrection, pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, que nous ayons de vrais motifs d'être dans la joie, quels que soient les soucis, les tracas et les fardeaux de la vie. Voulez-vous être comme ce petit enfant à qui sa maman bienveillante et prévoyante avait glissé dans sa besace 5 pains d'orge et 2 poissons parce qu'elle le voyait partir toute la journée? dans un endroit désert? Voulez-vous être comme cet enfant, avoir suffisamment de générosité et de foi, apporter même modestement votre témoignage au milieu de ces foules, dans toutes ces rencontres informelles, dans tous ces moments de partage et de convivialité et de joie, pour témoigner de ce qui fait votre raison d'exister, de votre raison de vous réjouir, votre foi en Jésus, mort et ressuscité. Il y a quelques petits poissons et pains d'orge au cœur de ces fêtes, à travers le témoignage de chacun, innombrable sans doute, à travers le bar du curé, cette belle initiative qui continue et qui permet à beaucoup de se poser, de parler, d'entrer dans une autre dimension. Des jeunes missionnaires, une vingtaine, qui tout au long de ces fêtes sont allés à la rencontre des festaires pour témoigner de leur foi, animant spirituellement la cathédrale tous les après-midi, permettant à beaucoup de venir s'asseoir, se poser, pour regarder au-delà du pain partagé et du vin qui coule en abondance. Chers frères et sœurs, pour conclure, pensons à ces martyrs d'Abitène, au nord de l'Afrique, au IVe siècle, à qui la loi impériale interdisait de se rassembler le dimanche pour célébrer l'Eucharistie, et qui transgressaient les lois impériales, prises en flagrant délit d'être rassemblés pour célébrer dans la joie l'Eucharistie. Ils furent tous assassinés, et en mourant martyrs, ils criaient « Sine Dominico vivere non possumus ». Sans le dimanche, sans l'Eucharistie dominicale, nous ne pouvons pas vivre. Et nous pourrions ajouter « Nous ne pouvons pas faire la fête ». Amen.